Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié par Hachette et Rose en 2024, Orgueil impotent, la véritable histoire qui a inspiré Bridgerton, est un ouvrage de vulgarisation historique de Catherine Curzon consacré à la régence anglaise, l'autrice. Historienne connue pour ses travaux de diffusion sur les monarchies et la culture populaire, y replace les codes associés à l'univers de Bridgerton dans leur contexte social réel. Le livre ne propose pas une étude de la série ni un récit romanesque, il offre plutôt un guide illustré de la société britannique du début du 19e siècle, période officiellement située entre 1811 et 1820. À travers sept grands domaines, de la hiérarchie sociale aux pratiques d'hygiène, en passant par la mode, les transports, les médias et le mariage, Curzon montre que l'éclat des bals reposait sur des règles, des inégalités et des contraintes concrètes. Son objectif est d'éclairer les références historiques qui nourrissent l'imaginaire de la fiction, tout en rendant accessible le quotidien de la haute société de la Régence. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la Régence anglaise a un cadre politique et social derrière le faste de Bridgerton. Le point de départ du livre est la Régence anglaise, période durant laquelle le futur George IV gouverna au nom de son père, George III, déclaré incapable d'exercer le pouvoir. Catherine Curzon utilise ce cadre pour rappeler que l'univers élégant associé à Bridgerton ne se réduit pas à une succession de robes somptueuses et de bals. Il s'inscrit dans une société fortement hiérarchisée, où le rang, la fortune, les relations familiales et la réputation déterminaient les possibilités d'un individu. La haute société disposait de lieux, de loisirs et de réseaux qui lui étaient propres, mais elle était aussi soumise à une surveillance sociale intense. Les comportements visibles, manières de se présenter, de recevoir, de se promener ou de choisir ses fréquentations, participaient à la définition du statut. Cette mise en contexte est essentielle, elle permet de distinguer les libertés narratives de la fiction des contraintes qui structuraient réellement la vie mondaine. Curzon met ainsi l'accent sur le caractère codifié du paraître. L'élégance n'était pas uniquement un goût personnel. Elle fonctionnait comme un langage social, susceptible de signaler l'appartenance, l'ambition ou au contraire une transgression. Pour un lecteur familier de la série, cette perspective donne une profondeur historique aux intrigues de réputation, de famille et d'ascension sociale. Deuxièmement, mode. Apparence et étiquette le vêtement comme instrument de positionnement social dans l'ouvrage. La mode occupe une place centrale parce qu'elle rend immédiatement visibles les normes de la régence. Les vêtements des femmes, comme ceux des hommes, ne sont pas présentés comme de simples éléments décoratifs, ils participent à une économie du prestige et à un ensemble de conventions, le choix d'une tenue, son adéquation à une occasion. La qualité des étoffes ou le soin apporté à l'apparence pouvait influencer la façon dont une personne était reçue dans les cercles mondains. Curzon relie donc les silhouettes, les accessoires et les règles de style aux attentes de la haute société. Cette approche aide à comprendre pourquoi les sorties, les visites et les rassemblements sociaux exigeaient des tenues distinctes. La promenade, par exemple, pouvait devenir un moment d'exposition publique autant qu'un loisir. Le livre s'intéresse aussi au code masculin, ce qui évite de limiter l'histoire de l'apparence à la garde-robe féminine. La référence à Beau Brummel, figure emblématique du dandysme de l'époque, permet notamment de situer l'importance d'une élégance masculine maîtrisée. En soulignant le poids des usages, Curzon montre que la mode était liée à la réputation, être bien habillé ne signifiait pas seulement être riche, mais savoir interpréter les règles implicites d'un milieu. Les illustrations renforcent cette fonction pédagogique en rendant les informations plus faciles à comparer et à mémoriser. Troisièmement, bals. Almax et déplacement, les infrastructures concrètes de la vie mondaine. Orgueil impotent examine les événements mondains et les moyens de transport afin de restituer la dimension matérielle de la sociabilité aristocratique. Les bals, les réceptions. Les promenades et les sorties ne naissaient pas spontanément, ils dépendaient de lieux reconnus, d'invitations, d'horaires, de chaperons et d'une capacité à circuler dans Londres ou au-delà. L'évocation d'Almax, institution célèbre de la vie mondaine londonienne, illustre le rôle décisif des espaces sélectifs. Y être admis pouvait valider une position sociale. En être tenu à l'écart pouvait au contraire affecter la réputation et les perspectives relationnelles. Curzon met ainsi en lumière le fonctionnement d'un monde où l'accès au bon réseau comptait autant que la fortune. Le chapitre consacré au transport complète cette analyse. Se rendre à une visite, voyager, afficher un équipage ou organiser ses déplacements supposait des ressources et un savoir-faire. Ces aspects pratiques permettent de mesurer l'écart entre la fluidité souvent montrée par les fictions et les contraintes réelles de la mobilité au début du 19e siècle. La vie sociale était aussi une affaire de logistique. Cette attention aux infrastructures est particulièrement utile, car elle explique comment les relations se formaient, se contrôlaient et se mettaient en scène. Le livre fait donc des balles et des déplacements des éléments d'analyse historique, plutôt que de les traiter comme de simples décors romantiques. Quatrièmement, commérage. Presse et réputation, l'information comme pouvoir social. Le traitement des médias et des commérages constitue l'un des liens les plus directs entre la régence historique et l'imaginaire de Bridgerton. Catherine Curzon rappelle que la circulation de l'information, des rumeurs et des jugements publics ne relève pas d'une invention contemporaine. Dans une société mondaine resserrée, où les rencontres se répètent et où l'honneur familial est particulièrement valorisé, une réputation pouvait être confortée ou fragilisée par ce qui se disait. Le livre place les potins dans un cadre plus large, ils sont liés aux formes de presse de l'époque, à la curiosité pour les personnalités en vue et aux mécanismes sociaux de l'observation. Cette perspective évite de réduire les rumeurs à un simple divertissement. Elles peuvent agir comme un outil de contrôle informel, en récompensant la conformité aux attentes et en exposant les comportements jugés inappropriés. La question est particulièrement importante pour les femmes, dont les possibilités sociales et matrimoniales étaient souvent étroitement liées à leur respectabilité perçue. Mais elle concerne aussi les hommes engagés dans les réseaux politiques, familiaux ou mondains. Curzon aide ainsi à comprendre que l'espace public de la régence n'était pas séparé de la vie privée d'apparence. Les alliances et les écarts de conduite pouvaient rapidement devenir des objets de conversation. L'ouvrage donne à ces mécanismes leur épaisseur historique sans prétendre assimiler entièrement la fiction à la réalité. En dernier lieu, mariage. Santé et hygiène dépassaient l'image idéalisée de la romance historique. Le livre se distingue par l'attention qu'il accorde aux réalités quotidiennes qui tempèrent le glamour de la régence. Les amours et le mariage y sont abordés dans le contexte des attentes familiales, des alliances et des stratégies sociales. Le mariage n'était pas seulement l'aboutissement d'un sentiment amoureux pour les élites, il pouvait engager le patrimoine, le rang et la continuité d'une famille. Cette grille de lecture permet de mieux saisir le poids des mariages arrangés ou des préoccupations liées à la respectabilité, sans imposer une vision uniforme des expériences individuelles. Curzon complète ce sujet par des éléments sur la santé et l'hygiène, domaines souvent laissés à l'arrière-plan dans les représentations romantiques de l'époque. Cette inclusion est importante sur le plan historique, elle rappelle que le quotidien était façonné par des savoirs médicaux différents des nôtres, par des conditions sanitaires inégales et par des pratiques corporelles qui ne correspondent pas aux standards contemporains. Le contraste entre salon raffiné et réalité matérielle produit une image plus complète de la période. Plutôt que de démystifier gratuitement Bridgerton, l'ouvrage invite à regarder ce que la fiction simplifie nécessairement les contraintes du corps, de la santé, de l'argent et de la famille. Cette articulation entre romance, normes sociales et vie ordinaire élargit l'intérêt du livre au-delà de l'étude des seuls divertissements aristocratiques. En conclusion, Orgueil en potence s'adresse d'abord aux lecteurs et lectrices de Bridgerton qui souhaitent situer les codes de la série dans l'Angleterre de la Régence. Il conviendra également aux personnes attirées par Jane Austen, l'histoire des sociabilités, la mode historique ou les usages de l'aristocratie britannique, sans exiger de connaissances préalables. Son principal bénéfice est de fournir des repères concrets le rôle de la hiérarchie sociale, les exigences de l'étiquette, l'importance des lieux mondains, le fonctionnement de la réputation, ainsi que les réalités moins séduisantes de la santé et du mariage. La lecture permet ainsi de mieux interpréter les conventions souvent mobilisées dans les romances historiques. Par rapport à une étude universitaire centrée sur l'histoire politique ou sociale de la Grande-Bretagne, le livre privilégie un format accessible, thématique et visuel. Il ne vise pas l'exhaustivité académique, son intérêt réside dans sa capacité à relier des objets familiers de la culture populaire. Balles, tenues, scandales, duels et unions matrimoniales à leur contexte historique. Son ample couverture de la vie quotidienne le distingue aussi des simples guides consacrés aux costumes ou aux adaptations télévisées. Les lecteurs déjà très documentés sur la régence y trouveront sans doute davantage une synthèse élégante qu'un renouvellement majeur des connaissances. En revanche, pour un public débutant ou curieux, l'ouvrage constitue une porte d'entrée claire et bien organisée vers une période dont les fictions retiennent souvent le lustre, mais moins les règles sociales et matérielles. Si vous souhaitez soutenir Catherine Curzon, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.